n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme
bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, son de femme, Radio Zone. Il fait un froid dans ce 3 avril terrible. L'hiver est revenu, mais la lune, elle est là, dans vos oreilles, sur 93.8 MHz. Comme tous les mercredis, à partir de 18h30. Au programme, eh bien, dans quelques instants, les informels, c'est le bulletin d'information de la pleine lune. Suivi par un programme de musique, Marjolaine a fermé son cœur pour cette semaine. Elle est partie en vacances, elle vous concocte un programme pour la semaine prochaine. Alors de toute façon, c'est Pâques et puis il fait trop froid dehors. Restez donc à la maison à écouter la radio 93.8 MHz. C'est La Pleine Lune sur Onde Femme Radio Zone. C'est aussi un numéro de téléphone, le 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Et puis c'est aussi une adresse, Onde Femme sur Radio Zone. 7 Boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Tout de suite, nos nouvelles. Alors que la Commission des droits de l'homme de l'ONU tient sa réunion pour sa 50e session à ces jours-ci à Genève, une jeune femme, secrétaire générale du Centre des droits de l'homme de Fray Bartolomé de las Casas dans la ville de San Cristobal de Chiapas, cette jeune femme Patricia Jiménez est venue témoigner sur ce qui se passe au Mexique aujourd'hui, plus particulièrement au Chiapas, contredisant très largement ce que le délégué du gouvernement mexicain, Marco Antonio Bernal, avait décrit. La responsable du centre, fondée par l'évêque Monseigneur Samuel Ruiz, abonde en exemples qui contredisent les propos louangeurs du coordinateur général de la délégation gouvernementale. Rien que la semaine dernière, dit-elle, 6 paysans ont été tués, des dizaines de blessés, 130 emprisonnés, alors qu'ils défendaient leur droit à la terre dans une commune du Chiapas. Patricia Jiménez doute donc sérieusement de la sincérité que met le gouvernement mexicain dans les pourparlers actuels qui se déroule dans le Chiapas. Il faut savoir, dit-elle, qu'il y a plus de 60 000 soldats au Chiapas et que le gouvernement bloque les négociations en s'opposant à la présence d'organisations non gouvernementales dans les commissions d'évaluation. En outre, la répression a lieu également dans d'autres États comme le Oaxaca et le Guerrero, alors que M. Bernal n'a reconnu l'existence de troubles que dans quelques municipalités. A noter que le comité Viva Zapata a appelé à une manifestation qui s'est déroulée aujourd'hui à 17h30 sur la place des Nations Unies pour mentionner les centaines de cas qui ont été dénoncés par la Commission des droits de l'homme au Chiapas. Les femmes émigrent de plus en plus. Les femmes asiatiques, surtout, représentent un groupe de femmes qui émigrent, qui augmente de plus en plus, en tout cas parmi les populations immigrantes. C'est ce que déclare un rapport qui vient d'être publié par le Bureau international du travail. Parmi les 35 millions de travailleurs migrants, les femmes asiatiques seulement représentent plus de 1,5 million. Et ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Dans les années 70, les femmes représentaient environ 15% des Asiatiques partis chercher du travail à l'étranger. Aujourd'hui, elles représentent plus du 35%. Le coût humain de ces départs est monstrueux, note le BIT, puisque quand les femmes partent, elles laissent leur famille dans le pays et souvent cette famille est très démunie et entre autres, il n'y a pas de présence maternelle ou féminine pour les soigner. D'autre part, les travailleuses qui sont souvent utilisées soit comme domestiques, soit comme personnel, disons artistique, ce qui est une litote pour dire prostituée, ces femmes se sont souvent trouvées dans un état sans aucune protection sociale et légale. Malgré cela, les pays d'où elles viennent ne protestent pas, car le bénéfice économique rapporté par cette manne est très très important pour l'économie des pays. Souvent, les femmes qui partent donc deviennent des bonnes ou des entraîneuses, des prostituées. Par ailleurs, certains pays d'Asie forcent les femmes à garder le même emploi pendant 2 ans, même si les conditions de travail sont insupportables. D'autres d'autres, les femmes immigrantes n'ont pas le droit de se marier avec des gens du pays, ou bien sûr d'avoir des enfants. Les grossesses sont souvent interdites et dans plusieurs cas, des tests de grossesse sont souvent obligatoires, même jusqu'à 2 fois par an, pour renouveler tous les permis. Les pays d'accueil sont principalement l'Arabie Saoudite, le Koweït, Hong Kong, le Japon, Singapour, la Malaisie et le Sultanat du Brunei. À Tokyo, monstre manifestation contre les bases américaines. Des dizaines de milliers de Japonais, plus de 100 000, ont manifesté à Tokyo pour protester contre la présence militaire américaine dans l'île méridionale d'Okinawa. C'est la plus importante démonstration depuis le viol sur l'île d'une fillette de 12 ans par 3 soldats américains, ce qui avait mis le feu aux poudres et levé l'indignation des habitants de l'île et plus largement des Japonais. Le gouvernement a signé vendredi dernier des documents pour le renouvellement des baux de location des terrains à l'armée américaine sur l'île où sont stationnés plus de 28 000 GI. Cette décision est passée outre aux objections du gouvernement d'Okinawa, 35 propriétaires ayant refusé de renouveler des baux expirants fin mars. Une femme américaine dans une station orbitale Mir. Il s'agit de Shannon Lucid qui travaillera avec les deux cosmonautes russes avant d'être rejointe par une autre femme, la française Claudie André Desney. Friand de records, les Américains devraient apprécier la performance de Shannon Lucid. C'est une jeune grand-mère née il y a 53 ans à Shanghai, astronaute de la NASA depuis 78. Elle a déjà volé dans des navettes américaines. Shannon Lucid, embarquée volontaire, restera sur la station russe. Plus de 5 mois, c'est le plus long séjour passé par un Américain dans une station orbitale. À l'occasion des 50 ans de l'UNICEF, l'Organisation nationale pour l'enfance, un colloque sur le thème « Enfance, richesse du monde » s'est tenu mardi 2 avril à Paris. Dans un entretien au Monde, l'Américaine Carole Bellamy, directrice de l'UNICEF, a fixé les grandes lignes de sa politique « L'Afrique reste la priorité de l'organisation ». L'UNICEF consacre de plus en plus de soins à secourir les enfants défavorisés, mais elle a élargi son champ d'action pour toucher à tous les domaines du développement, s'intéressant aussi bien aux femmes qu'aux enfants. En effet, les objectifs restent toujours liés à la survie et au développement des enfants, mais les phénomènes sont très liés. La réduction de la mortalité des jeunes enfants, de la malnutrition, de la mortalité maternelle, l'accès à l'eau potable pour toutes les familles, l'accès à tous à l'enseignement de base, tous ces objectifs sont liés entre eux et participent au bien-être des enfants. Outre l'Afrique, qui reste le point central, l'ex-Union soviétique voit également son champ d'action s'élargir puisque 8 bureaux ont été ouverts dans ces pays. En effet, dans l'ex-URSS, explique Carole Bellamy, s'est produite une véritable désintégration des systèmes de protection sociale et les besoins sont parfois aussi importants que dans des pays en voie de développement, en tout cas en matière de vaccination ou de santé maternelle, par exemple. En Inde, la reine des bandits, Phoolan Devi, est candidate à un siège de députée. Figure de légende pour avoir fait régner la terreur dans une région du centre de l'Inde, la reine des bandits a annoncé qu'elle se présenterait aux législatives du 27 avril. Phoolan Devi brigue une circonscription de l'état d'Uttar Pradesh et porte les couleurs de Shamajwadi Party, qui avait largement contribué à sa libération alors qu'il dirigeait le gouvernement régional de cet état. Son parti représente les basses castes de la société indienne auxquelles Phoolan Devi appartient. Rappelons-nous que Phoolan Devi a passé 11 ans en prison pour le meurtre de 22 villageois de haute caste qu'il avait violé. Sans avoir jamais été jugée, elle a été remise en liberté en février 1994 sur décision de la Cour suprême. Toujours en Inde et en ce qui concerne les basses castes, grâce à un programme de développement révolutionnaire de l'UNICEF, des femmes intouchables du sud de l'Inde ont pris le contrôle de certaines productions, entre autres des carrières de granit, où elles travaillaient jusqu'à là dans des conditions proches de l'esclavage. En dépit des apparences, donc ce sont les femmes qui prennent toutes les décisions, elles qui sont responsables de la marche de l'entreprise. Les voici devenues patronnes grâce à un programme de développement unique lancé par le gouvernement avec le soutien de l'UNICEF afin de venir en aide aux femmes les plus pauvres parmi les pauvres. L'État indien est en effet propriétaire de toutes les carrières du pays et a permis à des groupes généralement composés d'une vingtaine de femmes de prendre ces carrières en gérance en lieu et place de leur ex-employeur. Depuis 5 ans, elles exploitent donc pour leur propre compte les gisements de granit du district de Pudukkottai et ont pu rembourser le petit emprunt de départ consenti à l'époque par le gouvernement. Toutes ces femmes sont des intouchables, soit des hors-castes, mises au banc d'une société encore rigidement hiérarchisée, bien que la loi indienne interdise officiellement toute discrimination. Aujourd'hui, les carrières ont prospéré, ainsi que le niveau de vie des femmes et de leurs familles. Le programme de développement a été volontairement ciblé sur les femmes car de plus en plus on sait qu'en permettant aux femmes de gérer des entreprises, ces carrières, l'argent profite à la famille au lieu de finir dans des bouteilles d'alcool comme c'est souvent le cas pour les hommes. Et les femmes sont bien plus efficaces pour gérer le budget familial et lutter contre la pauvreté. Le calcul s'est montré judicieux. Aujourd'hui, le groupe emploie 40 personnes, dont une trentaine d'hommes, et la plupart des femmes ont pu construire une maison en dur pour leur famille respective. Plus important encore, le programme a permis aux femmes analphabètes d'apprendre à lire, à écrire par le biais de cours et elles sont aussi capables de tenir des comptes et de ne pas se faire rouler par plus instruits, ce qui s'est révélé assez utile car les ex-employeurs, bien sûr, ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Ainsi, on les a traînés devant les tribunaux, les accusant de provoquer en usant de la dynamite des fissures dans un temple voisin, ce qui s'est révélé faux. On a même, une fois, un ex-employeur a même volé tous les outils pendant la nuit, mais bien sûr, la police n'a rien fait. Ces femmes ont peu à peu pris de la force tout en ayant toujours peur en permanence que le gouvernement ne renouvelle pas leur contrat et revienne à l'ancien système. Elles vivent dans l'insécurité sous une menace psychologique constante. Pourtant, une ombre au tableau. La présence dans la carrière de très jeunes filles employées par le groupe, elles ont entre 10 et 12 ans, effectuent des tâches pas trop dures, mais quand même travaillent toute la journée. Ce programme pilote est limité cependant à quelques 170 carrières qui regroupent environ 2000 femmes. Il ne s'est concrétisé que dans la région de Pudukkottai et grâce à la farouche détermination d'une femme, Sheila Rani Shunkart, figure quasi légendaire parmi les pauvres du district. En Suisse, faut-il séparer les garçons et les filles dans les écoles ? C'est une question qui peut se poser, car la mixité ne veut pas toujours dire égalité. Une étude vient de montrer que la majorité des filles continuent à choisir des métiers et des carrières cul-de-sac et des métiers dits féminins qui n'ont pas beaucoup de débouchés. Après plus de 10 ans de recherche en Suisse, mais aussi en Allemagne et aux États-Unis, on aboutit aux mêmes conclusions, la mixité profite surtout aux garçons. Loin de garantir l'égalité des chances, elle favorise au contraire le maintien de comportements stéréotypés. Aurait-on mis les filles dans des écoles de garçons ? En Suisse, il est officiellement permis depuis 1993 de déroger au principe de la mixité des classes. Pour autant que l'égalité des deux sexes soit encouragée, mais seuls les Suisses alémaniques ont tenté le coup. Pour la première fois dans le canton de Vaud, le Conseil d'État a nommé une femme à la direction d'un gymnase. Il s'agit de Jacqueline Buvelot qui prendra la tête de celui du Bugnon à Lausanne cet été. Une étude sur les élections de 1995 montre que les candidates n'ont pas eu assez accès aux médias durant la campagne. La Commission fédérale pour les questions féminines constate qu'en proportion, les femmes ont été insuffisamment servies par les médias lors des élections fédérales de 1995. L'étude présentée à Berne porte sur la présence des candidates au Conseil national et au Conseil des États dans les médias. La Commission fédérale pour les questions féminines est partie du constat que les femmes sont chroniquement sous-représentées dans la vie politique. Même après la progression enregistrée aux élections de l'automne dernier, elles ne détiennent que 21% des sièges au national et 17% aux États. Dans toute la Suisse, les médias ont moins souvent parlé des femmes candidates que de leurs concurrents masculins. Alors qu'elles représentaient 36% des candidatures au Conseil national, les femmes n'ont eu droit qu'à 25% des présences à l'antenne de la radio romande et 27% à la télévision romande. Cette sous-représentation des femmes dans les médias tient en partie au fait que les hommes occupent la quasi-totalité des fonctions dirigeantes de la hiérarchie. Dans les médias électroniques, la répartition traditionnelle entre thèmes masculins et féminins a largement eu cours. Les hommes ont focalisé leur attention sur les finances publiques, l'emploi, l'économie, l'armée. Les femmes ont davantage été interrogées sur l'égalité des sexes, la cohésion nationale, la drogue, la famille, les assurances sociales. En parlant d'ailleurs toujours d'égalité, la loi sur l'égalité entre femmes et hommes a été amendée dans le canton de Vaud. Le canton de Vaud a élaboré le projet de loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes. Contrairement à Genève, le projet vaudois n'envisage pas de créer des structures spécifiques pour traiter de la problématique de l'égalité entre les sexes, mais remet cette charge aux tribunaux existants de districts et de prud'hommes. Les procédures de conciliation seraient traitées par les mêmes instances. Le projet de loi attribue un rôle prépondérant au bureau de l'égalité. Il sera chargé d'aider à la formation des magistrats, d'enregistrer les cas afin de créer une jurisprudence dans ce domaine. Il sera également, son rôle sera également d'inciter les femmes à utiliser ce nouvel outil juridique. Doté actuellement d'un poste et demi, le bureau pourrait voir son personnel augmenter. Pourtant, sa suppression avait été envisagée dans le plan d'économie d'Orchidée 2. À Genève, le parking souterrain du Mont-Blanc s'offrira un lifting pour plus d'un million de francs dès le mois de septembre et il aura des zones réservées aux femmes proches des sorties et bien éclairées. L'Association des femmes protestantes genevoises jette l'éponge. L'indifférence a eu raison de l'Association des femmes qui s'est dissoute. Après une cinquantaine d'années d'existence, la mobilisation de ses membres était devenue si difficile, même la dissolution a été faite par correspondance. Le manque de participation, l'absence de relais, l'augmentation de la moyenne d'âge sont autant de raisons qui ont conduit à la dissolution de l'association. Quel rapport y a-t-il entre des mouettes lesbiennes, des alligators aux testicules atrophiés et des hommes stériles ? Eh bien, il semblerait que ce soit des substances d'utilisation courante qui ont une action identique à celle des hormones, c'est ce qu'affirment les spécialistes américains. Des anomalies sont apparues dès les années 50, où des ornithologistes ont remarqué que les aigles de Floride avaient perdu leur instinct de reproduction. Puis, dans les années 60, ce sont les visons d'élevage qui avaient été nourris avec des poissons, qui ne parvenaient plus à se reproduire. Dans les années 80, on a remarqué que des mouettes femelles de Californie se mirent à nicher avec d'autres femelles. Et puis encore, des alligators qui avaient des pénis atrophiés. Et en 90, des chercheurs ont annoncé que globalement, le nombre des spermatozoïdes présents dans la semence humaine avait chuté de moitié en 60 ans. Comment établir un lien entre des mouettes lesbiennes, des hommes qui tire à blanc. Eh bien, un scientifique du WWF pense l'avoir découvert. Il s'agirait d'une exposition à des produits chimiques de synthèse ayant la capacité d'imiter des hormones naturelles. Il peut s'agir, par exemple, de la vinclozoline, un fongicide dont les résidus sont souvent trouvés sur les fruits, ou la dioxine, qui, produite par la combustion d'éléments chlorés, peut imiter des œstrogènes, ou encore les PCB qui sont utilisés dans les transformateurs électriques, ou encore dans d'autres substances qui sont largement distribuées dans tous les objets et dans tout ce qu'on mange. C'est bientôt la fête des mères, vous vous souvenez? Eh bien, c'est le moment de se rappeler à quel moment la fête des mères a été créée. C'est ce que nous rappelle, entre autres, un livre de Francine Muel-Dreyfus qui s'appelle « Vichy et l'éternel féminin ». En effet, c'est Pétain qui a inventé la fête des mères et qui a envoyé les femmes au foyer pour qu'elles fabriquent à la chaîne des vrais petits Français. Excusez-moi. Le maréchal Pétain et son gouvernement de Vichy n'aimaient pas beaucoup les femmes. C'était elles les responsables de la défaite. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre défaite, a dit le maréchal. Les femmes doivent donc rentrer au foyer, rattraper le temps perdu en procréant à la chaîne des vrais petits Français. L'historienne Francine Muel-Dreyfus, dans son livre sur Vichy et l'éternel féminin, rappelle que la France de Pétain ne s'est pas contentée de collaborer avec les Allemands, mais a voulu reconstruire le pays sur un modèle fasciste, balayant la modernité et la démocratie. Liberté, égalité, fraternité sont devenus travail, famille, patrie. Une société fondée sur l'exclusion. Car Vichy a exclu les femmes mariées de la fonction publique, par exemple. Les amis en congé sans solde si elles ont moins de 3 enfants, a interdit le divorce pendant 3 ans après le mariage, a puni de mort l'avortement et donc les femmes qui avortaient. Et il a instauré la fête des mères dont nous avons hérité. On avait déjà essayé d'instituer une fête des mères après la guerre de 14, mais cela n'avait pas marché. Pétain invente donc un rituel de fête des mères pour exprimer l'idée que la seule mission, le seul destin légitime des femmes, c'est la maternité. Il s'agit de déployer toute une culture de la féminité pour rappeler aux femmes leur juste place dans la cité. La fête des mères devient sous Vichy un événement national, très politique, qui célèbre le sacrifice féminin. Les femmes sont glorifiées et mises à l'écart de la scène publique. Il y a d'ailleurs un lien dans toute la politique de Pétain entre l'exclusion des étrangers, politique xénophobe et relégation des femmes dans un rôle de mère au foyer. Déjà entre les deux guerres, on lisait des articles qui stigmatisaient à la fois l'afflux des réfugiés étrangers et les féministes. L'obsession de la faiblesse de la race, la question de l'immigration et celle de la dénatalité font donc système. La fête des mères, par exemple, repose sur l'idée de la femme, gardienne des feux contre le cosmopolitisme et la grande ville. Elle s'inscrit dans le discours général de Vichy sur les inassimilables, les paysans qui quittent la campagne, les nouveaux venus, les juifs et les femmes qui font des études. Je vous conseille de lire ce livre de Francine Muel-Dreyfus, Vichy et l'éternel féminin, d'autant plus qu'un sondage qui vient d'être publié par Le Monde montre que plus d'un Français sur 4 sont d'accord avec les idées du Front National. En directe filiation avec les idées de Vichy. L'influence du Front National a effectivement progressé. Aujourd'hui, 28% des Français se déclarent d'accord avec les idées défendues par Jean-Marie Le Pen au lieu des 19% il y a 2 ans. Cette proportion monte à 46% parmi les sympathisants de la droite, mais même à 15% des électeurs de la gauche qui disent être d'accord avec ces idées. Comme quoi, la maladie de la vache folle est plus dangereuse pour l'homme qu'on l'avait dit. Et pour terminer dans ma rubrique « Les Américains sont fous », une petite histoire de cimetière. Terrible d'ailleurs, terriblement macabre et terrible en tant que tel. 3 jours après avoir enterré leur fille, morte peu après sa naissance, dans un cimetière baptiste de Barnett Creeks, en Géorgie, les parents ont été invités à transformer le petit cercueil ailleurs. Car, a expliqué le diacre, c'est un cimetière blanc à 100% ici. La mère est blanche, mais le mari est noir, l'enfant métisse ne peut donc pas être dans le cimetière. Le scandale révélé par la presse a amené le président de la Conférence des Églises Baptistes du Sud à rappeler que le racisme est l'antithèse de l'Évangile. Nous n'admettons pas de métis dans notre cimetière, ont cependant retorqué les 130 paroissiens tous blancs, avant que leur pasteur précise que le bébé restera où il est. En tout cas, les parents, eux, ont déménagé. C'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz, on fait Radio Zone. Je m'excuse, mais je suis enrouée, ma gorge n'a pas résisté à ce froid, mais la pleine lune est toujours dans vos oreilles. À tout de suite. Donc, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, non pas à la semaine prochaine, car ce sera, nous partons en vacances, je vais soigner mon mal de gorge, mais Marjolaine sera là pour vous ouvrir son cœur. À bientôt sur la pleine lune, 93.8 MHz.
It was August, summer of 82. You had that rusty old car, and me, I had nothing better to do. You picked me up, we hit the road, baby, me and you. We shot out of town, driving fast and hard, leaving our greasy skid marks in people's backyards. We were going nowhere, just driving around. We were going in circles, and me, I was just hanging on. Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. Listen. If I open my mouth now, there's so much I'd say. Like I can never be honest. Like I'm in it for the thrill. Like I never loved anyone. And I never will.